Deuxième partie, des exemples de noms nouveaux. On a Abraham qui devient Abraham. Et donc Abraham, ça veut dire le père est exalté. Donc c'est, ça veut dire en quelque sorte, c'est comme si c'était quelqu'un qui était un saint, qui était, qui avançait dans sa vie spirituelle et que tout le monde admirait, quoi. Abraham, ça veut dire ça en hébreu. Et Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc il y a quelque chose de particulier que Dieu, un obstacle qui paraît incompréhensible, c'est en gros, t'as passé des années de stérilité à attendre d'avoir un fils, et le jour où t'as un fils, tu te demandes de me l'offrir. Et en plus, tu te fais marcher plusieurs jours jusqu'à une montagne, tu sais même pas laquelle. Donc il devait guetter la montagne en attendant un signe de Dieu pour se dire « je vais immoler mon fils ». La grosse épreuve, il réussit l'épreuve avec succès, et là, Dieu lui fait une promesse. Il dit « bah voilà, tu m'as montré que tu étais détaché par rapport à ce qui comptait le plus pour toi, c'est-à-dire ta descendance, je vais te donner au centuple, et même au millionième, je sais pas comment dire, et je vais faire de toi le père d'un peuple nombreux ». Et Abraham, il rajoute une lettre qui est le « he » en hébreu, qui exprime en fait, « he » ça veut dire « fenêtre » en hébreu, qui exprime le souffle, comme si il y avait une fenêtre dans notre cœur qui s'ouvrait pour laisser rentrer la flèche d'amour que Dieu veut faire rentrer, vous voyez, et pour faire rentrer, parce que, je vais devenir ésotérique là, mais il y a des gens qui ont vu le ciel, comme les fourchots, je ne sais pas si vous avez entendu, des personnes qui, une dame qui est décédée pendant quelques instants et qui a vu un petit peu ce qui se passait au ciel. Et elle explique que l'Esprit Saint, pour faire passer des messages, pour toucher le cœur des gens, pour leur dire des choses, il y a des petites flèches, vous voyez, qui arrivent comme ça et qui se plantent dans le cœur, des petites flèches en or, et ça les touche au plus profond d'eux-mêmes, ça les illumine de joie, parce que c'est l'Esprit Saint qui en direct dit quelque chose. Et là, ils perçoivent quelque chose, vous voyez. Et ben le « hé » que reçoit Abraham, cette lettre en plus qui fait « Abraham », qui est un souffle, c'est la lettre de la fécondité, et son nom, le Père est exalté, Abraham, se transforme en Abraham, qui veut dire Père des multitudes. C'est-à-dire, finalement, je t'ai donné une petite fécondité, je t'ai donné un talent, voilà, tu l'as fait fructifier, et ben tu vas avoir un million de descendants, et c'est toi qui vas être le Père de ces descendants-là. Voilà. C'est extraordinaire de voir le lien, finalement, entre l'épreuve terrible qui a été imposé à Abraham finalement, mais qui était un grand priant et qui cherchait à avancer vers le Seigneur, et les grâces qu'il a reçues, parce que voilà, et Jésus dit bien que Jésus dit il a vu mon jour, quoi. Abraham, c'était pas n'importe qui, il a vu peut-être que l'Esprit Saint lui a ouvert une porte, je sais pas comment dire, peut-être temporelle, où il a vu Jésus. C'est peut-être quelque chose qui s'est, il a été en esprit devant la croix, peut-être. Il a, vous voyez, Abraham, c'est quand même quelqu'un, c'était un balèze de la foi, quoi. On a Sarai, sa femme, qui devient Sarah. Donc Sarai, c'est ma princesse. Donc c'est un peu celle qui est la femme d'Abraham, qui est admirée par Abraham, et c'est déjà très beau parce que c'est l'amour humain. Et elle devient princesse, c'est-à-dire de manière absolue, un peu comme la Vierge Marie, vous voyez, princesse d'une multitude, c'est-à-dire mère d'une multitude d'hommes qui va engendrer une multitude d'individus, vous voyez. Ma princesse, princesse. Voilà le nom nouveau de Sarah. On a Simon. Alors Jésus, il va le chercher, il est près de son bateau, là, et avec les autres, et puis il lui dit, ton nom sera Pierre. Et Pierre, c'est, dans la Bible, c'est un symbole très fort, parce que c'est un signe de contradiction, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, c'est en fait la base, c'est le socle, vous voyez, et Pierre, là, pour le coup... Jésus, quand il parle à Pierre en lui disant « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela », etc., il l'appelle par son ancien nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Et en fait, il lui dit « Heureux es-tu, toi qui es dans la condition humaine un peu de base, parce que Dieu te relève et te révèle un certain nombre de choses, notamment que je suis saint », vous voyez. Donc, il y a un jeu un petit peu en montrant... Donc là, il y a une partie de son nom qui est révélée à toute l'Église pour montrer un exemple finalement de vocation où Dieu donne un nom, change le nom en quelque sorte, et voilà, donc Pierre il devient quand même le chef de l'Église entière. Pour ceux qui connaissent un peu Maria Valtorta, qui a vu le Christ, la Vierge Marie, et notamment des passages de l'Évangile, on voit un passage qui est très beau, plusieurs fois, où Pierre il est triste parce qu'il aimerait avoir des enfants. Et Jésus le tanne en lui disant, c'est plutôt lui qui tanne Jésus, et Jésus lui dit, mais je t'appelle à une vocation bien plus sainte. Et son renoncement à lui, ça a été le renoncement à être un père de manière charnelle. Pour lui, ça a été vraiment difficile. Et Jésus lui a donné une paternité immense qui est d'être le père de l'ensemble de l'Église, qui est, c'est quand même, vous voyez. Donc on retrouve un petit peu l'épreuve d'Abraham où il y a le Seigneur qui lui dit, bah, je vais te demander ça, et il lui donne déjà au centuple sur la terre quelque chose d'extraordinaire qui ne peut se comprendre qu'avec le regard de la foi, parce que c'est ingrat à court terme de ne pas avoir d'enfant d'enfant de 2 ans qu'on peut prendre dans ses bras et faire sauter sur ses genoux, vous voyez. C'est voilà. Donc Simon Pierre, c'est vraiment quelque chose, le symbole du non nouveau. Comme autre exemple, on a la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, c'est aussi très beau, vous connaissez ce passage-là mieux que moi, notamment avec l'Annonciation, où il y a l'ange qui vient voir la Vierge Marie et qui lui dit « Réjouis-toi, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, etc. etc. » Et la Vierge Marie, elle avait une connaissance de la parole de Dieu qui faisait qu'elle a eu un trouble spirituel. Le trouble qui est évoqué, c'est un trouble de nature spirituelle, parce qu'il y a quelque chose de... le « réjouis-toi », on ne le trouve quasiment pas dans la Bible. Il est lié à plusieurs textes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Le « réjouis-toi » comblé de grâce, vous voyez. On a déjà le « réjouis-toi » qui va appeler des textes de l'Ancien Testament, qui, notamment, par exemple, on a Zacharie, au chapitre 9, où c'est « Réjouis-toi, parce que ton sauveur vient vers toi, il est humble, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse », texte qu'on lit au rameau. Donc, en fait, le « Réjouis-toi », ça évoque, il va y avoir le Messie qui va débarquer d'une minute à l'autre, et ça sera un Messie humble, vous voyez. Le « Réjouis-toi », c'est déjà une parole qui dit, dans le discernement de ta vocation, à court terme, eh ben, le Messie va faire éruption et il sera humble et monté sur un âne. Vous voyez. On a aussi le « Réjouis-toi » dans Sophonie, où le Sophonie qui est un petit prophète. Sophonie, il va dresser un tableau assez sombre de ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Il y a des persécutions, il y a des choses négatives qui se passent, hein, un peu comme à l'époque de Jésus où il y avait les Romains et c'était pas facile tous les jours, il y avait une oppression particulière, bah comme nous aujourd'hui où il y a la laïcité qui nous fait croire que on est tolérant mais qui en fait nous empêche de parler de notre foi alors que ça fait partie de nous, on aurait envie nous parfois de parler de Jésus sans forcément chercher à convertir, mais vous voyez, on a tous des oppressions à chaque époque. Et à la fin de Sophonie, il y a réjouis-toi parce que je vais te délivrer en tant que peuple, voilà, c'est réjouis-toi fille de Jérusalem, etc. Vous voyez, donc ce réjouis-toi de l'ange finalement donne une clé à la Vierge Marie qui est un non nouveau par rapport à je t'ai choisi toi la Vierge Marie pour faire tomber l'oppression en fait qu'on a dans le peuple d'Israël, voilà, pour qu'il y ait un flot de grâce qui rentre dans le peuple d'Israël et que par toi ça soit l'ensemble du peuple qui soit racheté, voilà. Voilà, on peut citer aussi dans Isaïe, au chapitre 7, on a « Voici que la Vierge est enceinte et elle concevra », etc. Et comme il y a un lien entre l'Annonciation et ce texte-là, peut-être que la Vierge Marie, sûrement même, elle a dans son trouble spirituel, parce qu'elle s'est dit « Mais ça, tout ça, ça me tombe dessus, c'est extraordinaire, les paroles de l'ange qui sont comme un concentré de référence à tous les textes de l'Ancien Testament qu'elle avait médité depuis des années. » Et là, c'est « Voici que la jeune fille Vierge est enceinte », c'est ça qui est écrit. Donc, c'est-à-dire, elle était vierge en plus. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge. Et donc là, il y a un nom nouveau. Hein, c'est la jeune fille vierge. C'est-à-dire, la jeune fille vierge, c'est toi. Vous voyez, celle qui a une fécondité dingue, qui a choisi d'être vierge pour le royaume des cieux, pour se donner complètement à l'époque, je dirais pas à l'Église, mais pour se donner à la communauté juive, au peuple d'Israël. Et eh ben, cette virginité va porter un fruit particulier. Et puis le quatrième texte qui est, auquel je pense, qui est celui dans Michée, vous savez, réjouis-toi, enfin Bethléem Ephrata, tu n'es certes pas le plus petit des clans de Juda. Voici que celle qui doit enfanter va enfanter, oui, vous savez. Et ben celle qui doit enfanter, c'est un nom aussi. C'est-à-dire que on appelle ça Yoleda en hébreu, celle qui doit enfanter. C'est-à-dire celle qui a été mise au monde, qui est venue sur la terre et dont la mission c'est d'enfanter. Et on pense à Jésus sur le coup, mais en fait, dans le Magnificat, on a la suite, c'est « Toutes les générations te diront bienheureuse ». Donc, quand elle entend ça, c'est-à-dire, en gros, elle l'a peut-être pas compris tout de suite, mais toutes les personnes de l'humanité vont être enfantées en toi. C'est-à-dire, par la grâce de l'Esprit-Saint, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint qui vont te déléguer cette partie-là, eh ben, ils vont faire en sorte que chaque personne, chaque individu, dans sa croissance vers Dieu, eh ben, chaque individu passe entre tes mains, comme s'il rentrait dans ton sein immaculé, pour être enfanté au ciel. Vous voyez, il y a comme si Dieu partageait son règne avec Marie, quoi. Voilà. Ça, c'est un nom nouveau de la Vierge Marie. Et là, on n'est que sur l'Annonciation, quoi. En fait, quand on lit ce qui s'est passé dans la Visitation aussi, en fait, il y a des choses... c'est extraordinaire. Finalement, il y a beaucoup, beaucoup à méditer là-dessus. Et on a aussi 2 Samuel 7, qui est le texte où il va y avoir le prophète Nathan qui va dire à David, c'est pas toi qui va me construire un temple, mais c'est quelqu'un issu de toi. Alors pourquoi 2 Samuel 7 ? Parce que Luc a fait exprès d'employer des mots qui se retrouvent dans 2 Samuel 7. Et les Juifs, ils font comme ça, ils vont faire exprès de mettre 3 mots. Donc là, les mots, c'est royaume, il sera grand, je vais bâtir mon trône sur lui, et mon royaume, je sais plus, il y a 3 mots. Et ces 3 mots-là, on les retrouve dans une seule phrase de ce que dit Nathan à David, en lui disant, c'est pas toi qui vas me bâtir un temple, c'est quelqu'un issu de toi. Et donc, la Vierge Marie, Luc exprime ça, vous voyez, exprime le nom nouveau de la Vierge Marie lié au fait que le royaume de Dieu commence par le sein de la Vierge Marie. Vous voyez, il y a quelque chose de très grand dans la vocation de la Vierge. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur Saint Joseph, parce que Saint Joseph est quelqu'un dont on sous-estime la grandeur. Et si vous voulez devenir des grands saints, priez Saint Joseph, parce que en réalité... Il n'y a pas encore de dogme sur lui, mais beaucoup de théologiens, beaucoup de gens, notamment des gens qui prient énormément, disent que Saint Joseph est déjà ressuscité et que c'est comme si le Père lui avait délégué le rôle de faire passer toute la paternité du Père céleste. Et ben, elle passe à travers Joseph, vous voyez. C'est-à-dire que dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint passent par Joseph. Donc le Fils c'est Jésus et Marie pour l'Esprit Saint. Et en fait, ces 3 personnes humaines ont une vocation pour faire comprendre qui sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint à l'humanité. Vous voyez, et il y a dans le nom nouveau qu'on peut évoquer pour Jésus, Marie et Joseph, il faut penser à tous les dogmes qui ont été promulgués dans l'Église, c'est-à-dire Marie, Mère de l'Église. C'est un nom de la Vierge Marie. Et en faisant ça, on honore la Vierge Marie. Et comme c'est le nom de la Vierge Marie qu'on célèbre, et ben plus on y pense, plus on le fête et plus on le reconnaît publiquement que Marie est aussi mère de l'Église, plus on donne de la force à la Vierge Marie, parce que c'est comme si ça venait déployer la vocation maternelle de la Vierge Marie sur la terre, vous voyez ? C'est les dogmes donnés par l'Église, en lien avec Jésus, Marie, Joseph, ou même en lien avec des saints, donnent des noms, comme des noms mystérieux que nous on peut utiliser parce qu'ils ont une puissance particulière dans la prière, tout simplement, voilà. Marie, mère de l'Église, bah en fait, à chaque fois quand je dis ça avec foi, c'est comme si je plaçais l'Église sous la protection de la Vierge Marie, voilà. Ou pour le dire autrement, c'est comme si je contribuais un petit peu à mettre un bouclier autour de l'Église pour qu'elle soit protégée. Ou c'est comme si je contribuais à ce que les chrétiens, d'une manière générale, comprennent un petit peu plus le mystère de la Vierge Marie pour leur vie de foi. Vous voyez, c'est tout ça, en fait, qui se passe. Voilà, ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Bon. Donc je parlais des noms liés à un peuple. On trouve beaucoup les nouveaux noms du peuple d'Israël qui est dans Osée par exemple, on trouvait je t'appellerai non aimé, c'est-à-dire tu vas un moment, moi le Seigneur, je vais être loin de toi. Je t'appelle Lo-Ami, ça veut dire non-aimé. Je t'appelle comme si t'étais l'enfant rejeté parce qu'il veut faire des bêtises, donc je le laisse à son propre... sa noirceur, quoi. Et puis après, il y a toutes les promesses c'est Isaïe qui dit « Je t'appellerai Jérusalem pardonnée, ville justice, cité fidèle, ville Yahvé, désiré, mon plaisir. » C'est comme, en fait, à chaque fois, c'est un peu comme une caresse de Dieu, avec ce nom qui va donner de la vie à ce peuple qui ne mérite pas qu'on le sauve tellement il est loin de Dieu et tellement il commet de péché, quoi, voyez. Et ce nom-là, si on regarde le mot Israël en hébreu, le mot Israël. Alors je suis pas hébraïste, hein. Moi j'apprends quelques lettres en hébreu et puis quelques rudiments d'hébreu parce que je trouve que il y a des choses à dire qui sont pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'avoir fait de l'hébreu depuis des années pour que ça nous nourrisse. Mais en tout cas, dans l'alphabet hébreu, Israël, il y a un yod d'abord. Le yod désigne la paternité dans la faiblesse, c'est-à-dire comme un papa plein de miséricorde. Voilà. c'est-à-dire le papa de Luc 15 qui va prendre son fils prodigue dans ses bras et puis l'interrompre quand il cherche les excuses un peu foireuses, vous voyez, il va dire non, je m'en fiche, je te pardonne et je t'aime et on va tuer le veau gras et je te rends la bague pour que tu puisses à nouveau avoir l'autorité dans la famille et voilà, donc le yod, ça désigne ça, vous voyez. Et le yod, du coup, on peut y voir le fait que dans Israël, le yod désigne le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire comme peuple qui va manifester le Père. C'est-à-dire un peu la justice du Père. C'est-à-dire un peuple juif qui va être des fois un peu borné, parce que le Seigneur l'a demandé d'être un peu borné dans sa manière de fonctionner, parce que le Seigneur lui dit, maintenant je veux que tu, le sabbat, tu ne fais pas grand-chose, enfin tu célèbres le Seigneur, je veux que tu ne manges pas de tel type d'animaux, mais que tu aies le droit de tel autre et tout, et on leur demande d'appliquer pour, enfin de faire des choses de manière assez réglée pour être un signe pour les autres, un signe de la présence paternelle, et en même temps la présence paternelle dans une certaine faiblesse, parce que le peuple juif, c'est un peuple petit et pauvre, vous voyez. Voilà. Après, si on regarde le S, qui est le Shin, le S désigne l'accomplissement absolu. Et donc, on peut y voir l'accomplissement dans le collège apostolique restreint des 12 apôtres, en fait, au temps de Jésus, vous voyez. C'est-à-dire, il y a eu un transfert du peuple de Dieu, d'un peuple qui avait la vocation de montrer quelque chose de Dieu, un deuxième peuple qui a la vocation de montrer une deuxième chose de Dieu, qui est qu'il a envoyé son fils en la personne de Jésus, avec des choses qui sont données pendant ces 3 années de vie publique. Puis après, on a le Resh, le Israël, Resh, donc le Resh qui est en lien avec la royauté. C'est une lettre qui est en lien avec la royauté, et ça, qui désigne plutôt nous aujourd'hui, c'est-à-dire la royauté des chrétiens. Voilà. On est baptisé, donc au nom de Jésus, eh ben, on est déjà sauvé. Comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, le temps qu'on passe sur la terre, c'est pas pour être sauvé, parce qu'on est déjà sauvé. Enfin, à moins que vraiment on s'éloigne de Dieu et qu'on choisisse délibérément de s'éloigner de Dieu, parce que l'enfer, c'est ça. Hein, on ne rentre pas en enfer par hasard parce qu'on s'est un peu égaré. L'enfer, c'est vraiment à un moment où on a vraiment, on se dit non, moi je pense que la désespérance, c'est au-dessus de l'espérance, quoi. Voilà. Ou alors, je pense que la haine, c'est au-dessus de l'amour. Enfin, vraiment, et on en est persuadé. Donc, disons que nous sommes rachetés par le baptême, et on passe du temps, finalement, sur la terre pour rendre un peu au Seigneur, en partageant sa royauté. Et par le baptême, on a tous la capacité d'exercer la royauté avec lui. Voilà. Ça, je pourrais en parler peut-être une autre fois, parce que ce serait un peu long, mais exercer la royauté, c'est par la prière, on est capable d'intervenir n'importe où, sur n'importe qui. Voilà, je prie pour quelqu'un qui va pas bien, et si je prie avec foi, le Seigneur va faire des miracles dans la vie de la personne. Je vais pouvoir aller à la messe, et puis en communion, en réalité, je fais advenir le règne de Dieu sur la terre. Il y a une force extraordinaire dans les sacrements qui nous sont donnés, notamment une fécondité. Il y a un règne, un vrai règne, c'est-à-dire que le Christ partage tout avec nous. Quand Paul dit « je suis tout en tous », c'est ça, c'est qu'en fait, c'est aussi ce que n'a pas supporté le fils aîné de la parabole, du fils prodigue, parce que lui, il se disait « comme mon frère cadet revient, on va devoir couper en deux l'héritage ». Et il n'a pas vu qu'en fait, l'héritage, il est infini, l'héritage du père. Et qu'en fait, le père, en réintégrant le fils cadet, effectivement, c'est comme si ça recoupait en deux l'héritage, et que chacun des deux fils recevait à nouveau tout l'héritage, enfin, on va dire, la part qui lui revient. Mais il n'est pas dit dans la Bible que le Père donne la part qui lui revient et que c'est la moitié et que du coup il lui reste plus que la moitié. C'est pas dit ça. Il lui dit la part qui lui revient. C'est-à-dire en quelque sorte, cet héritage, c'est la dose d'amour que chacun des deux enfants a dans sa vie. Et en fonction de cette dose d'amour, chacun peut exercer une royauté particulière sur l'humanité. C'est-à-dire par exemple si j'aime beaucoup. Le Seigneur me pardonne beaucoup, et ma prière a une efficacité particulière. Je suis comme un enfant devant lui, et quand je prie, je vais pouvoir sauver des gens, je vais pouvoir empêcher des gens d'aller en enfer, parce qu'ils vont recevoir l'espérance, parce que c'est moi qui vais les aider à porter la désespérance, parce que quand je vais communier, je vais transformer l'Église, tellement vous voyez. Et donc le fils aîné, lui, il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris que l'héritage, cette royauté, elle était à tout le monde, quoi. Voilà, le service que je rends à Sainte-Madeleine, en fait, il n'est pas à moi, il est à tout le monde, en quelque sorte. Et si un autre service organise quelque chose, par exemple une soirée de miséricorde, cette soirée de miséricorde, elle appartient à chacun d'entre nous, quoi. C'est-à-dire qu'en tant que paroissien, eh ben, on peut autant que l'assemblée de prière se réjouir de cette soirée, et on peut autant que l'assemblée de prière s'approprier toutes les grâces qui vont advenir. Vous voyez, il y a un partage des grâces, il y a un partage aussi peut-être des faiblesses, mais le Seigneur nous donne ce qu'il faut pour intervenir. Vous voyez, voilà, donc cette troisième lettre du peuple d'Israël, il y a un transfert à nouveau du collège apostolique sur l'Église entière, qui est ouverte aux païens, donc à nous, qui ne sommes pas forcément des juifs de souche. Voilà.